Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Marielle de Vera, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Quatrième rencontre et on vous garde jusqu'à demain si vous le voulez bien. Je rappelle pour nos amis auditeurs qui voudraient aller un peu plus loin dans la découverte de votre parcours et surtout de ce récit d'une conversion, votre conversion qui s'est vécue ici dans ce sanctuaire Marielle de Lourdes où nous enregistrons pas très loin de la grotte Massabielle. Ce livre paru aux éditions Mediapole s'intitule « La télé-réalité Lourdes-Marie ». Et moi, il est question beaucoup de cette ville de Lourdes et de ce sanctuaire. Mai 2013, vous vous retrouvez ici, vous rejoignez des amis du cirque, et c'est trois jours d'enfer. Aujourd'hui, c'est le paradis aujourd'hui. Lourdes se transforme en un paradis pour vous, mais en 2013, c'était l'enfer. Très vite,
alors,
revenez.
En fait je crois que pour un non-croyant, arriver à Lourdes peut être un choc. Peut être vécu comme un choc. D'abord, je ne veux pas manquer de respect aux gens de Lourdes, mais il pleut souvent, on le voit aujourd'hui.
je confirme.
L'eau de Lourdes qui nous tombe dessus.
Qui bénit. C'est une eau particulière.
Et puis, toutes ces vierges en vente, toutes ces messes, tous ces prêtres, ça peut faire peur quand même. Enfin, et les non-croyants peuvent penser que tout ça ressemble... Je vais loin, mais c'était un peu ce que je pensais, une secte, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens embrigadés un peu bizarres qui ont toute la journée, qui ressassent, quoi, leur messe et leur... voilà. Et donc, si vous voulez, quand je suis arrivée là, déjà, mes amis s'étaient bien gardés de me dire qu'il s'agissait d'un pèlerinage. Donc, je me suis retrouvée dans un pèlerinage. Moi, j'allais les retrouver pour boire des bons coups et faire la fête. Je savais ce qu'était Lourdes, bien entendu. Donc, je me disais bien que j'allais croiser quelques prêtres. Il ne faut pas être hypocrite non plus. Mais je ne pensais pas qu'il y en avait un dans le groupe, déjà.
La vérité, rien que la vérité.
Voilà. Donc, oui, je pense que pour un non-croyant, arriver à Lourdes la première fois, ça peut faire un peu peur, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi... une vraie réflexion que les croyants doivent avoir pour justement peut-être changer les choses, pour que justement ça ne fasse pas peur aux gens qui croient un peu moins. Voilà. Parce que c'est plein de codes, la croyance.
Il y a un vocabulaire aussi.
C'est un vocabulaire, c'est des chants, c'est des... Quand vous êtes à la messe et que vous ne connaissez pas les chants, c'est super angoissant, en fait. Parce que alors, vous faites comme
vous
ce pauvre Jacques Chirac avec les footballeurs en 98, vous faites semblant de faire des onomatopées. Mais voilà, ça peut être complètement...
Des crises d'angoisse,
en fait.
Non,
mais non. C'est excluant. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, nous croyants aujourd'hui, de se dire, mais comment est-ce qu'on peut se mettre à porter de ceux qui croient un peu moins.
Rejoindre peut-être certains touristes. Beaucoup de touristes s'arrêtent dans ce sanctuaire de Lourdes.
Bien sûr, parce
qu'ils ne connaissent rien.
Ils vont visiter le pic du Gers.
Que vous avez visité ?
Non, jamais. Maintenant, je viens à Lourdes pour les sanctuaires, il faut le faire.
Et pour la grotte.
Et
les confessionnaux.
Aussi. Alors, c'est vrai que je passe moins au confessionnal. Je ne vais pas mentir.
La piscine.
Alors, la piscine, ça, c'est exceptionnel. Alors,
Vous vous y plongez à chaque fois ?
Non. D'ailleurs, demain, j'avais un laissez-passer pour y aller et que j'ai annulé juste avant de faire l'émission de radio parce que j'ai été appelée en parallèle pour témoigner pour 200 jeunes. Donc, j'ai préféré les 200 jeunes que le laisser-passer à la piscine. Alors, quelque part, je regrette quand même un peu parce que cette piscine, c'est un moment extrêmement fort à vivre. Et que comme j'ai la chance de faire des témoignages ici, j'avais ce petit laisser-passer. Mais en même temps, je me suis dit que c'était pas grave, ça libérait de la place pour quelqu'un qui en avait peut-être plus besoin que moi. Et au-delà de ça, témoigner devant 200 jeunes, je pense que c'est là ma mission. Voilà.
Et le symbole de la piscine représentait... le symbole de la piscine représentait quoi pour vous, cette plongée ?
En fait, la première fois que je l'ai fait, c'est pour une amie qui m'a un peu obligée à y aller. Une amie qui a une maladie orpheline et qui devient handicapée. Donc, pour moi, ça représentait absolument rien. Et c'est pendant que je l'ai fait et après l'avoir fait que j'ai commencé à comprendre que ça représentait quelque chose. Parce que c'est...
Et c'est par amitié ?
Alors franchement, purement oui, parce que ce
vous en parlez dans votre livre.
Je vous assure que je l'aime beaucoup cet ami, parce que j'y suis vraiment allée. Alors à ce moment-là, je commençais à vraiment m'interroger sur la foi. Donc c'était 6 mois après ce que j'appelle ma conversion, voilà, qui a en tout cas qui a fait que j'ai commencé à me mettre en chemin et à rechercher
Et à mener l'enquête.
Et à mener l'enquête.
Enfin, venir
sur les apparitions de la Vierge. Mais au-delà de ça, c'est vrai que cette piscine, en fait, aujourd'hui, ouais, déjà on se met à nu. Et personne regarde, hein, tout le monde s'en fout, hein, voilà, très clairement, pour ceux à qui ça pourrait faire peur. Mais au-delà de ça, quand vous commencez à mettre les pieds dans cette eau glacée, il y a la Vierge qui est au bout. Et déjà, vous avez fait la queue et vous avez vu des gens qui sont bien plus malheureux que vous, en fait. Et donc déjà, ça remet bien les idées en place. Et donc, ça remet bien en fait le compteur à zéro, quoi. Moi, sur le milieu dans lequel j'évolue et le milieu de Lourdes, c'est quand même deux univers radicalement opposés. Et donc, du coup, quand vous arrivez dans cette baignoire, parce que c'est comme une grande baignoire, ben vous vous dites, j'espère ne pas avoir volé la place de quelqu'un d'autre. Enfin, moi, ça a été vraiment une vraie pensée. Je pense que j'en ai pas besoin. Vous voyez, je vous ai confié hier ou avant-hier, je sais plus, que j'avais fait une hémorragie cérébrale. Donc, quand je me suis dit oui, j'ai dit oui aux 200 jeunes, je me suis dit mince, j'y serais bien allée quand même suite à ce qui s'est passé cette année. Et en même temps, je me suis dit ouais, mais vraiment ma place, c'est de témoigner. Donc, je comprends en fait les personnes vraiment atteintes dans leur physique et dans leur... qui porte une maladie comme on porte la croix, vraiment l'importance exceptionnelle que c'est d'aller dans cette piscine avec toutes les attentes, parce que s'il n'y a pas une attente de miracle, il y a quand même une attente de spiritualité et de lien qui est très fort avec la Vierge. Et du coup, quand vous mettez les pieds dans cette eau glacée, qui a cette petite statuette de la Vierge en face, de l'autre côté de la piscine, moi je sais que je la regardais et que j'avais l'impression d'être en duo avec elle, alors que je sais qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider, et très sincèrement, je me souviens absolument pas de ces personnes-là, alors que ce sont des saintes, hein, elles font ça toute la journée dans la glace, et on les croise, hein, tous les jours dans les rues de Lourdes, mais ce sont c'est tout un personnel, les hospitaliers, qui sont pour moi des saints. J'ai d'ailleurs écrit un texte là-dessus, et voilà, ce sont des anges sur Terre, les hospitaliers, les brancardiers, toutes ces personnes, en fait, qui donnent de leur temps, de leur argent, sur leur travail, sur leurs économies, sur leur famille, pour venir à Lourdes s'occuper des plus faibles et des plus démunis à une époque où on parle d'euthanasie pour les plus faibles, hein, ce qui moi me choque profondément.
Toujours près de ces piscines de Lourdes, nous revenons, nous faisons quelques pas sur nos pas et devant cette grotte de Lourdes où vous vivez ce moment important de la conversion, du début, hein, du début d'une rencontre, d'un retournement intérieur. Il y a une promesse que vous faites. Vous repartez de cette grotte en faisant une promesse.
En fait, comme donc je suis frappée pendant 45 minutes par des questions que je ne peux maîtriser, et pour faire cesser ces questions, je fais une promesse, c'est d'enquêter sur les apparitions de la Vierge. Puisque pour moi, tout ça était surnaturel et n'existait pas. Même Bernadette, je m'interrogeais sur le fait de savoir si vraiment elle avait existé, ou si c'était un conte pour enfants. Ou pour croyants, ce qui pour moi était un peu la même chose. Donc du coup, ouais, j'ai commencé à enquêter, mais comme tout le monde peut faire en fait, hein, parce qu'aujourd'hui on a quand même des outils extraordinaires avec Internet. Alors après, il faut faire le tri de ce qui est vrai, de ce qu'il faut, et ça c'est plus compliqué. Mais quand vous commencez à recouper les infos, quand vous essayez de comprendre qui sont les auteurs de ces infos, quand vous procurez des bouquins, il y a un bouquin par exemple qui recense les déclarations de gendarmerie de Lourdes pendant les apparitions. C'est un bouquin qui est juste fabuleux. Parce que moi, c'est un bouquin qui m'a fait comprendre une chose, qui m'a fait comprendre que si les apparitions sont surnaturelles, les faits, eux, sont réels et historiques. Il s'est vraiment passé quelque chose en 1858 à Lourdes. Il s'est vraiment passé quelque chose en 1917 à Fatima. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas le contredire.
Cette enquête que vous avez menée pour les apparitions de Lourdes, très précisément, vous en conduit un peu plus loin, de vérifier, peut-être de mener votre propre enquête pour votre propre histoire, vos propres questionnements sur le sanctuaire de Fatima et ses apparitions de Fatima, comme de la Salette et bien d'autres lieux d'apparition.
Bah, c'est-à-dire que petit à petit, quand on se rend compte que les faits sont réels et historiques, déjà, ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire que vous vous dites, ah, donc il y a peut-être un truc qui s'est passé. Donc déjà, c'est plus non. Mais c'est quoi qui s'est passé? Est-ce que c'est la Vierge? Est-ce que c'est les ovnis? Parce que moi, j'ai même lu des bouquins où on disait « Fatima, c'est les ovnis ». Sauf que le 13 octobre, c'est pas les petits bonshommes verts qui sont apparus dans le ciel, c'est l'image de la Sainte Famille. Hein. C'est pas les petits bonshommes verts. Donc, en 1917, le 13 octobre, 70 000 personnes, dont des francs-maçons, assistent à l'apparition de l'image de la Sainte Famille dans le ciel, après avoir vu pendant 45 minutes, là aussi d'ailleurs, le soleil dansait. Donc, ils sont curieux si ce sont des ovnis, vous voyez. C'est quand même l'image de Joseph, Marie, l'enfant Jésus qui apparaît. Rien d'autre. Voilà. Et ça, il y a des témoignages, des milliers de témoignages qui existent, qui sont à Fatima et qu'on peut se procurer assez facilement.
Le temps de l'enquête, de votre propre recherche, a été la finalité aussi de ce retournement et de ce début de conversion qui se produisait en mai 2013 devant cette grotte?
Alors, ça n'a pas été la finalité parce que c'était le commencement. C'est-à-dire que je crois que dans toute conversion, il y a eu un besoin de trouver des preuves matérielles. Et puis après, du matériel, mais il faut du temps, moi il m'a fallu plus d'un an, du matériel, vous allez passer au ressenti. Et le ressenti, quand le ressenti arrive, je pense que c'est là la foi, c'est la vraie foi. C'est-à-dire que le moment où vous dites, mais non en fait. Que j'en ai la preuve ou pas, je crois, point.
Vous ne résistez plus. Voilà. Vous ne résistez plus à l'amour qui devient vérité.
C'est ça. C'est exactement ça.
Marielle de Vera, merci pour aujourd'hui. Merci et on vous retrouve demain, encore quelques minutes, pour finir cette série avec vous, de la télé-réalité à Marie et à cette foi que vous vivez au jour le jour et dans tous ces temps aussi où vous donnez aussi votre propre témoignage. À demain, à la même heure.
Merci, à demain.